Il est l'heure pour nous de retrouver Bruno et ses écritures dessinées. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, peu de récits dessinés évoquent le cursus d'une école d'art. Mademoiselle Caroline avait présenté son parcours à l'école de Penningham dans « Ma vie d'artiste ». Dans « L'école est finie », Ève-Marie nous invite à Saint-Luc à tourner en Belgique. Cette formation à l'art, et notamment à celui de la bande dessinée, est un aboutissement pour l'autrice. Dès son entrée au collège, elle voulait être autrice de bande dessinée. Ce livre révèle ce qui s'est passé de ses 10 ans du collège à l'Institut Saint-Luc qui la consacre dessinatrice de bande dessinée et autrice. L'occasion, à travers ce récit de vie, d'un regard critique sur l'institution scolaire. Nous serons avec Ève-Marie vers 14h15. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Antoine est en régie. Et donc, nous allons écouter pour la musique, les 3 morceaux de musique choisis par Ève-Marie, Franz Ferdinand, les Beatles et Eddie Floyd. Alors, une brève tout d'abord. Le Festival du dessin a ouvert ses portes à Arles le 18 avril. Une douzaine de lieux, un très grand nombre d'expositions d'artistes dont on ne connaît pas les dessins, comme par exemple Louise Michel, des artistes italiens, des dessins de Fernand Léger ou de Steinlein, de Tinguely. Tout ça, c'est jusqu'au 17 mai. Vous pouvez rencontrer toute l'ampleur du dessin et Frédéric Pajac, directeur du festival, affirme « Le festival du dessin » nous dit combien est puissant le langage qu'est le dessin, ce vieux langage qui est le nôtre depuis que nous existons sur cette terre. Chaque artiste présenté, au-delà des questions de goût, a trouvé une issue, un chemin personnel qui le conduit dans la vérité profonde du dessin, la subjectivité. On aura l'occasion de reparler du Festival du dessin d'Arles et Frédéric Pajac, c'est le créateur des cahiers dessinés dont on a régulièrement parlé dans cette émission. Shadok ! Alors, donc, c'est le principe de l'émission, j'encadre le livre de l'auteur ou l'autrice invité pour l'entretien par d'autres livres avec des liens, bien sûr, puisque c'est un peu le principe de créer ces ponts entre les différents livres, les différentes écritures, les différents styles. Premier livre, c'est The Kids. Alors, The Kids est un scénario de Garth Ennis, mis en image par Dalibor Talagic. Et c'est donc un comics alors, qui est publié dans la collection Knife Cycle chez Delcourt. Et ils ont souhaité faire au format album franco-belge classique, eh bien, une publication, une parution de comics américains qui sont plutôt des one-shots et qui ne sont pas des séries comme c'est très souvent, un peu comme chez nous d'ailleurs. Et donc ce format n'est pas historiquement celui de la bande dessinée américaine et ça se sent, il y a quelque chose qui surprend. Je n'ai pas le même plaisir à lire un tel livre plutôt que les recueils que font régulièrement les éditeurs qui publient du comics américain. Alors, Garth Ennis, c'est certainement un nom que vous avez vu déjà, et notamment c'est le scénariste de la série The Boys, qui a été donc adaptée en série télévisée, et qui est une critique très incisive des super-héros américains. C'est comme si il observait une dérive des super-héros vers une sorte de fascisme où ils utiliseraient leur pouvoir à des fins purement personnelles pour dominer. Et cette série a vraiment une très grande qualité, et notamment par son jeu d'acteur. Le comics à l'origine est aussi de très grande qualité. Alors, cette fois, Garth Ennis est associé à un dessinateur, Dalibor Talagic. J'avais évoqué ces dessinateurs qui viennent de différents pays et qui vont travailler aux États-Unis. C'est le cas de Dalibor Talagic, qui est né à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Et il a intégré, il y a quelques années, l'univers de Marvel. Et notamment avec Deadpool Kills the Marvel Universe Again. Putain, je l'ai travaillé, celle-là. Alors, il y a... et c'est tout l'intérêt de ce scénario qui donne beaucoup de possibilités au dessinateur. Donc, le récit, quel est-il? En une minute, le monde a basculé dans l'horreur. Tous les enfants de moins d'un an ont disparu, remplacés par des créatures incompréhensibles pour leurs parents. Qu'est-il arrivé à ces enfants? Qui sont ces adultes dégénérés et hyper-violents qui ont pris leur place? Une famille horrifiée fait de son mieux pour résoudre cette énigme, mais avant de trouver les réponses, elle doit survivre à une nuit cauchemardesque. Alors, c'est vraiment très lié à l'esprit, par exemple, de The Boys, où là, on n'a pas de super-héros ni quoi que ce soit, mais on a finalement une transformation, un peu comme les zombies sont transformés après être mordus et en fait vivent après la mort. Et là, on a cette transformation des bébés. Alors, c'est important parce que Garth Ennis ne s'occupe pas vraiment du pourquoi, mais il s'occupe beaucoup de comment se passe cette transformation et comment la société va se retrouver complètement un peu désemparée face à cette mutation complète de ces enfants qui se retrouvent à exploser les berceaux, parce que quand on est adulte et qu'on se retrouve dans un petit lit comme ça, ça ne marche pas tout à fait pareil. Et donc, en fait, quand Garth Ennis va tirer ce fil narratif, eh bien, il va vraiment voir comment les parents font face, comment on fait pour résoudre la situation devant laquelle on est, devant cet enfant, Léo, qui se retrouve eh bien, immense, grand, comme vous et moi, comme n'importe quel adulte aujourd'hui, et qui pourtant était un bébé quelque temps auparavant. Donc il y a toute une intrigue qui va être développée et que le dessinateur Dalibor Talagic va mettre en scène avec une efficacité certaine, c'est solide, il y a un traitement du trait assez appuyé, précis, c'est vraiment une bande dessinée au trait avec une mise en couleur qui est efficace, ce qui c'est un peu un principe d'une certaine réalité ou de traitement assez classique de la réalité, avec un ciel bien bleu, avec parfois l'herbe bien verte également. Mais en fait, ça colle tout à fait avec ce récit où eh bien, on est dans une sorte de fantastique d'anticipation, de bouleversement. qui va très bien être exprimé à la fois à travers les galeries de personnages, donc les parents, le fils aîné et la grand-mère qui vont affronter les transformations de l'enfant et qui vont découvrir par exemple ce qui s'est passé dans une maternité. Je ne vous dis pas, c'est pas triste du tout. Et c'est le plaisir de ce récit qui se décale une nouvelle fois. Et c'est vraiment la marque de fabrique du scénariste. The Kids, le récit complet, donc en un volume, de Garth Ennis pour le scénario et de Dalibor Telagic pour la partie dessin. Les 48 pages de ce récit sont au prix de 10,50 €. Et le livre a été imprimé en France. Les Chalocs. Un autre récit où il est question d'enfance, c'est Passeur, qui est un récit de Frédéric Lourd et Damien Pérez, et la mise en image est de Fernando Baldo. Donc c'est un récit sur les passeurs, et le terme est tout à fait, et le titre est tout à fait bien choisi. Awar, le passeur, a une passion pour les baskets de luxe, mais peu de compassion pour les migrants qu'il convoie jusqu'au jour où il croise la jeune Esrin. Awar, le taiseux, porte des baskets de luxe grâce à son lucratif job de passeur. Mais il porte aussi un douloureux passé qui va réveiller Esrin, une jeune migrante kurde, fille de combattante fuyant l'enfer syrien, laissant renaître son humanité ou pas. Awar va devoir choisir, car Soran, son boss, veut du chiffre et du résultat. Et Awar, plus tout jeune, voit bien que Musta, passeur ultra-violent, fraîchement arrivé, lui prendrait volontiers sa place. Va-t-il oser prendre la porte de la rédemption ou la claquer définitivement ? Alors c'est un sujet difficile, d'actualité, essentiel, c'est une sorte de gouffre, d'affre de l'humanité. Il y a une inhumanité qui fait que des hommes peuvent arriver à être d'une violence souvent qu'on a du mal à imaginer. Alors, traiter un tel thème, les auteurs l'ont fait en adoptant le point de vue du quotidien, le point de vue d'hommes qui pratiquent ce passage de migrants dans la Méditerranée. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire des personnages dans lesquels on va développer une personnalité, une cohérence pour que ce récit soit crédible, soit vraisemblable. Et c'est une des réussites de ces deux scénaristes, Frédéric Lourd et Damien Pérez. Ils sont tous les deux journalistes. Frédéric Lourd est journaliste indépendant, il a fait de très nombreux reportages et enquêtes, et il a notamment travaillé sur le trafic des migrants, les damnés du foot africain ou le commerce illicite des antiquités et encore la traite d'enfants. Damien Pérez est lui plus associé à la bande dessinée qu'il a vraiment développée. Il en fait son écriture, il est scénariste et aussi très sensible à toutes ces questions de société. Alors, les auteurs ont choisi une mise en image avec peu d'images par page, de grandes images, un récit plutôt d'ampleur. Il fait 160 pages, qui permet donc, avec ce traitement de l'image avec de grandes cases, eh bien, d'avoir une intensité et une longueur qui fait qu'on est vraiment dans ce récit et il peut se développer. Il n'y a pas simplement quelques rebondissements, il y a vraiment la dimension humaine du récit de ce passeur qui va se révolter contre ces autres passeurs qui l'emploient. Et il y a aussi une compassion pour les migrants et faire ça avec peut-être plus d'humanité. Et c'est là tout l'intérêt du récit, c'est que cette contradiction, on est passeur, on n'a pas forcément de l'empathie pour les migrants, et les deux scénaristes vont la créer avec ce personnage d'Awar. Le dessin est un dessin réaliste, celui de Fernando Baldo est au plus près des personnages avec des gros plans sur les regards, avec cette façon d'être dans cette intimité des personnages qui fait qu'on traite vraiment le thème des migrants au niveau de tout à chacun, et ça donne toujours, et c'est un des grands principes de la narration, une épaisseur et une amplitude au récit, une universalité, qui est souvent le mot qui est employé. Il y a, avec aussi l'intérêt des grandes images, une possibilité d'être un peu plus dans la nuance des expressions de visage, parce que bien la taille du visage va être un peu plus importante que si vous avez une dizaine d'images par page. Et c'est un point essentiel parce que toutes les émotions qui vont être présentes et traversées dans ce livre, qui est vraiment une tragédie, et les auteurs arrivent à donner cette dimension tragique avec la folie dans laquelle rentrent plusieurs personnages de cette histoire. Dessin réaliste, récit réaliste, une fiction associée à cette question de société fait que Les Passeurs sont un livre important et qui permet d'être plus impliqué, immergé par cette connaissance qu'ils nous transmettent et ces émotions qui y sont associées de cette question des passeurs et des migrants. Il y a un point toujours en toile de fond, c'est que le consentement n'efface pas la traite humaine. Et donc c'est ça aussi ce point essentiel, les migrants qui traversent ont donné leur consentement, mais ça ne doit pas se transformer en traite humaine. Les Passeurs de Frédéric Lourd et Damien Pérez pour le scénario et de Fernando Baldo pour la partie dessin. Les 160 pages de ce livre sont au prix de 25 euros et il me semble que le livre est également imprimé en France. Les moustiques, cette fois. Ah non, c'est la musique. C'est la musique, c'est le premier morceau choisi par Eve-Marie, Franz Ferdinand.
I'm just a crosshair. I'm just a shot.
Les chiffres de l'école sur le décrochage sont édifiants. 110 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification. 16% des élèves touchés par le harcèlement scolaire, soit l'équivalent d'un élève par classe. Dans son livre « L'école est finie », Eve-Marie met en image son parcours scolaire du collège au banc de l'Institut Saint-Luc à Tournai. Un point de vue de l'intérieur de la salle de classe pour, à travers le récit autobiographique, porter un regard critique sur l'institution scolaire, publique ou privée. Eve-Marie décrypte les mécanismes qui mènent aux situations de décrochage, de violence, aux solutions existantes, comme son passage à l'Institut Saint-Luc de Tournai, qui la consacre autrice de bande dessinée, le rêve de ses 10 ans. Eve-Marie a choisi le ton de l'ironie, volontiers vacharde, porté par un dessin humoristique où s'invite la caricature. L'autrice se représente sans complaisance. Son trait souple, précis, au plus près des gestuels, des expressions parfois glaçantes, des profs, joue également avec cette force de la bande dessinée qui est ce décalage graphique pour symboliser des situations emblématiques. Par exemple, elle dit « Le rêve n'était pas au programme, mais c'est fort dommage, j'étais hyper doué. » L'image correspondante représente la force de son imaginaire. Une lisibilité accrue par des décors discrets, centrant le dessin sur les personnages, une mise en couleur jouant sur les contrastes comme sur les nuances pour la lumière et les ambiances. Nous sommes avec Eve-Marie pour qu'elle nous invite sur les bancs de l'école qu'elle a fréquentée. Bonjour Eve-Marie.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, comment s'est mis en place pour vous le récit autobiographique ? Est-ce que, alors, parce que ça n'a pas toujours été le cas, là c'est ouvertement autobiographique.
Oui, c'est absolument ouvertement autobiographique. L'année dernière, avec toutes les salves d'informations absolument atroces concernant des faits de scolarité qui remontent à plusieurs années, certes, mais voilà, ça m'a fait remonter des souvenirs. Et moi, j'aime beaucoup faire rire mes lecteurs avec des petits strips sur Instagram. Et je me suis dit, bah tiens, moi, je vais leur raconter, parce que de la violence en milieu scolaire, de par le personnel encadrant, j'en ai connu. Et puis en fait, ça a provoqué un véritable raz-de-marée de messages, de témoignages que j'ai reçus dans tous les sens, jusqu'au coup de fil de mon super éditeur Dominique Burdeau, qui m'a appelé en me disant « Mais est-ce que ça te tenterait pas d'en faire un bouquin complet ?» Et on est tombé d'accord sur le fait que raconter cette histoire-là pourrait être chouette, mais pas parler que de ça, en fait, de parler d'une trajectoire, d'une scolarité complète, du collège jusque un petit peu post-bac.
Alors, Eve-Marie, comment s'est mis en place le ton, le traitement, justement, de votre parcours et de cette présentation des parcours scolaires plus chaotiques, alors que justement l'actualité est quand même très sombre, avec des questions de harcèlement. Comment vous êtes-vous positionné ?
En fait, j'ai pas eu trop à réfléchir à ça, dans la mesure où je ne fais que de la bande dessinée d'humour. C'est vraiment ce que je préfère faire, c'est aussi ce que je préfère lire, et je trouve qu'en plus de traiter des sujets pas très agréables avec l'humour, ça permet de faire un pas de côté et d'en rire, en fait, parce que je pars du principe que c'est important de réussir à rire d'à peu près tout, et puis surtout quand c'est sa propre histoire, c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas de risque de blesser qui que ce soit, et en fait on attaque que soi et sa propre histoire, et ça, le faire avec humour, c'est vraiment ce que je préfère. Et de toute façon, je crois que je suis pas très forte pour faire des drames.
Alors, si on continue à tirer ce fil du timbre de votre récit, il y a quand même, vous abordez des situations, notamment de personnalités dans des écoles privées ou publiques qui ont des abus de pouvoir assez importants. Donc vous n'évacuez pas du tout l'aspect critique de ce système scolaire.
Bah, en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment une critique sur le système scolaire, c'est vraiment un regard sur la scolarité que j'ai eue, qui est passée par le public, qui était là vraiment la porte ouverte dans tous les sens du terme, qui était très libre, mais peut-être pas assez cadrée pour moi, au cadre beaucoup trop ferme de l'école, de l'école privée, où là, effectivement, le personnel qui travaillait, que ce soit les surveillants, les professeurs, enfin voilà, c'était d'une fermeté et d'une violence là pour le coup assez colossale, jusqu'à l'arrivée à Saint-Luc où bon là c'était pile ce qu'il me fallait, on va dire chaussure à mon pied. Mais c'est pas une critique sur l'école en tout cas d'aujourd'hui, puisque c'est vraiment un livre sur la scolarité d'il y a une trentaine d'années maintenant.
Ève-Marie, comment s'est composé, s'est écrit votre livre ? Est-ce que vous avez cherché à avoir une écriture complète du scénario, une vue d'ensemble ? Est-ce qu'il y a une écriture dessinée qui se déploie au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire ?
Alors moi je travaille toujours, j'écris en storyboardant, c'est-à-dire c'est la face préliminaire au crayonné puis l'ancrage. Je suis pas bien capable d'écrire parce qu'en fait j'ai besoin de voir mes personnages bouger, estimer la taille de la case qui leur sera nécessaire pour exprimer le sujet abordé. Et donc je dessine en écrivant. Et en fait là j'ai eu besoin de temps en temps, parce que des souvenirs me sont revenus au fur et à mesure de l'écriture, donc de faire des retours en arrière pour ajouter des anecdotes ou voilà. Mais globalement, ça s'est fait de façon assez fluide, je pense, comme tout ce qui est autobiographique, parce que c'est vraiment un sujet sur ce qu'on connaît bien.
Alors, il y a des moments où on sent que on y est, on vous accompagne, on est à côté de vous dans la classe. Et notamment, par exemple, lorsque vous êtes au collège et qu'il y a un garçon de la classe qui vous brocarde et vous posez la question, est-ce que je vais devenir victime officielle ou marquer mon mécontentement sur le petit leader de la classe? Comment se travaille cette partie comique? Et au niveau du storyboard, est-ce qu'il y a une évidence dans votre écriture? Est-ce qu'il y a de la recherche? Est-ce qu'il y a des choses qui sont abandonnées parce que c'est pas assez puissant?
En fait, j'essaie toujours de trouver l'attitude juste des personnages qui résonne avec le propos. C'est-à-dire que là, par exemple, le moment que vous décrivez dans la bande dessinée, traité sans le prisme de l'humour, aurait pu être quelque chose d'assez triste, de l'enfant qui se remet en question, est-ce que je deviens une victime ou quoi. Et ben, pendant qu'elle pose cette question-là, on a déjà la réponse avec l'image, où elle se retourne avec une pile de livres prête à sauter sur justement le petit leader de la classe. Donc moi, j'aime bien travailler un petit effet de contraste pour que ça surprenne le lecteur et que ça le fasse rire.
Il y a en fait aussi là la transmission de votre parcours où finalement vous réglez une partie des questions et des problèmes vous-même. Là, c'est typique. On a souvent des récits où le leader est absolument tyrannique et puis là, il ne pourra pas.
Donc. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix que tout le monde ne peut pas forcément avoir, mais comme je suis assez impulsive et que ça ne date pas d'hier, effectivement, dès l'école, j'étais la plus petite en taille, en âge et tout ça, et j'ai bien senti que soit je me faisais bouffer, soit je faisais comprendre tout de suite qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Ce que j'ai pu faire avec les élèves, mais pas avec le corps enseignant, bien évidemment.
Eve-Marie, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve donc après Help des Beatles, où on va parler plus précisément de votre dessin et de votre mise en image, votre découpage. À tout de suite.
À tout de suite. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Eve-Marie à l'occasion de la parution de son dernier livre, L'école est finie. Comment s'est passée la représentation de vous-même ? Parce que là, vous êtes en enfant ou en pré-ado avec la frange très basse, on ne voit pas vos yeux. Comment vous avez décidé cette mise en image, Eve-Marie ?
Alors en fait, il y a un personnage que j'utilise de façon extrêmement récurrente, qui est justement un personnage avec une très longue frange noire sur les yeux. Et je me suis dit que ça serait vraiment amusant de la faire enfant. Et en plus, ça me permettait une grande facilité, parce que c'est un personnage qui me suit depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, et donc que je connais bien, et on travaille bien ensemble. donc ça a été en fait un vrai terrain de jeu pour moi.
Eve-Marie, comment se met en place votre dessin ? Il y a beaucoup de précision dans les gestuels. On est en plus très centré sur les personnages, puisque les décors sont plutôt discrets. Comment se passe l'écriture du storyboard, des crayonnés et puis l'ancrage ?
Alors en fait, mes storyboards sont pas très précis. pour le coup, il y a beaucoup de bonhommes patates, on va dire. Et c'est une fois à l'ancrage en fait où je cherche la bonne attitude la plus juste possible pour raconter ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que je trouve que les personnages, à mon sens, dans une bande dessinée, c'est vraiment important d'entendre leur voix, de les voir respirer, de les sentir bouger, On n'a pas le pouvoir de l'animation pour les faire bouger, et je trouve que c'est hyper important que visuellement un lecteur passe très peu de temps par case, et moi j'aime beaucoup l'idée que son œil n'ait pas à chercher, fouiller dans l'image, à comprendre ce qu'il a à voir, mais que ce soit quelque chose d'assez facile et surtout d'efficace. Donc au moment de l'ancrage, je cherche vraiment l'efficacité et le ton le plus juste possible pour que ça soit extrêmement clair.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Eve-Marie? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Vous êtes à l'énergie? Il y a au contraire une retenue pour que le trait soit le plus juste?
Ah, ça dépend des jours.
Tant mieux.
Ça dépend des jours et ça dépend de ce que j'ai à raconter. Mais globalement plutôt à l'énergie, encore une fois, sur le storyboard. J'arrive à voir à peu près ce qui va fonctionner ou pas. Et puis après, justement, un peu plus en retenue sur l'ancrage pour que ça soit le plus clair et le plus limpide possible. Donc, et puis il y a des jours où on est plus ou moins en forme, et il y a des jours où, je ne vais pas vous cacher, je me traîne horriblement, et d'autres où je peux faire 2-3 pages dans la journée avec le plus grand bonheur. C'est assez irrégulier tout ça.
Et pour la mise en couleur, vous la concevez comment, Eve-Marie ?
Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que je raconte. Pour ce livre-là, il m'a fallu pas mal de temps pour trouver le curseur que je cherchais vraiment. Je me suis dit, allez, les périodes pas sympas vont être un petit peu sépia. Sépia et gris essentiellement, parce que c'était pas une période très très chouette. Les moments où la petite héroïne rêve, là, c'est extrêmement coloré, parce que c'est vraiment l'échappatoire. Et puis la dernière partie du livre, qui est un espèce de happy end incroyable, retrouve des couleurs vives et joyeuses. Moi, j'aime bien que les couleurs, encore une fois, soient vraiment liées à l'ambiance générale. Je me dis souvent que la couleur, c'est la musique du film, en fait. Et que selon la façon qu'on a de l'utiliser, elle racontera des choses différentes sur le dessin.
Alors la partie sur l'Institut Saint-Luc de Tournai est importante, et c'est peu fréquent qu'on ait une présentation ainsi d'une école d'art. Oui. Alors, là aussi, comment c'est fait le chemin ? Parce que c'est vraiment une expérience de liberté qu'on partage, que vous nous faites partager, que vous nous transmettez. Alors, pourquoi cette envie de parler de ce qui a fait que vous êtes dessinatrice de bande dessinée ?
Saint-Luc, moi, si vous voulez, j'ai vraiment eu l'impression que c'est là-bas que je suis née, quoi. Et en fait, au tout début, justement, quand on a commencé à parler de ce livre avec mon éditeur, ça m'intéressait pas trop de m'apesantir sur ce qui s'est pas bien passé, parce que, encore une fois, j'ai pas envie de mettre ces gens, ces lieux en lumière, ça m'intéresse pas, ils méritent même pas ça. Et je me suis dit, mais par contre, Saint-Luc, je dois énormément à cet établissement qui a été une véritable école d'art et de vie, parce que je me suis rendu compte que les choses pouvaient être simples, en conscience, joyeuses, et ça a été des années extraordinaires. Et j'ai eu envie, en fait, de les remercier à ma façon, et en tout cas de les mettre en lumière, parce que à part le long de la frontière, en France, on connaît assez peu Saint-Luc, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un super établissement.
En plus, il y en a dans plusieurs villes de Belgique.
Absolument, chacun avec sa spécialité, ouais.
Alors, quels sont vos doutes, Eve-Marie ?
J'espère que vous avez encore 6 heures devant vous.
Oui, on va peut-être pas rentrer dans autant de détails.
Mes doutes, alors professionnels, t'imagines ?
Oui, je ne me permettrai pas d'aller.
Doutes professionnels, en ce moment, on est quand même dans une période qui est assez compliquée pour pouvoir continuer à vivre de notre métier. Donc il y a toujours le doute de signer la BD d'après. Et ça, c'est un doute que j'aimerais vraiment, vraiment enlever. C'est on va dire le doute essentiel. Et puis l'autre petit doute, c'est toujours de savoir quand on fait une BD et qu'on y met vraiment tout ce qu'on a pour régaler les lecteurs, savoir la vie qu'elle va avoir, comment elle va être reçue, perçue. Ça c'est les vrais doutes. Les deux gros doutes que je peux partager avec vous. Voilà.
Alors quel est le rôle de votre éditeur? Comment se fait la relation avec les directeurs littéraires quand il y en a, ou avec l'éditeur lui-même par rapport à votre écriture?
Il n'y en a pas de pareil, mais vu qu'on parle de L'école est finie, je vais vous parler de la relation avec l'éditeur que j'ai eu sur ce titre-là, que j'ai mis dans les remerciements, et ça m'arrive pas souvent parce qu'il a été absolument extraordinaire. Il m'a laissé une liberté incroyable. Et dont j'avais vraiment besoin justement pour avoir les coups des franches, pour raconter et pouvoir y aller fort dans ce que j'avais à dire. Il a été d'un accompagnement très discret mais sûr, et franchement ça a été un bonheur total. Voilà, et c'est même pas fin. Ma prochaine BD ne sortira pas dans la même collection, donc vous voyez, c'est de la sincérité pure.
Merci beaucoup Eve-Marie. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc L'école est finie, c'est publié par Robinson. Et les 120 pages de votre livre sont au prix de 20 €. Je me suis permis d'arrondir. Et le livre a été imprimé en France. Et on finit avec votre dernier titre, celui que vous avez choisi. Donc c'est Eddie Floyd. Très bonne continuation, Eve-Marie. Et à très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, je voudrais terminer cette émission avec le dernier livre de Léon Marais. Ça s'appelle « Fake News ». Alors, c'est un livre étonnant, d'une part parce que il a fait l'objet d'une prépublication dans la revue topo. Et donc, on retrouve cette situation qu'il y avait dans les grandes heures du journal Tintin, Spirou, Pilote, où ces journaux, ces périodiques permettaient une prépublication des bandes dessinées. C'était important parce que les pages étaient payées à ce moment-là. Et donc, l'auteur, avant de toucher des droits d'auteur sur la vente de ses albums, était payé à la page. Avec la disparition importante des périodiques que j'ai cités, eh bien, les auteurs ont perdu donc cette prépublication et les droits d'auteur étaient en fait des avances sur droits. Ces paiements à la planche étaient des avances sur droits. Si le tirage ne permet pas ou les ventes ne permettent pas de rembourser ces avances sur droits, eh bien, il y a une difficulté déjà à faire un nouvel album avec le même éditeur et également à toucher des droits et un peu plus que simplement le prix à la page défini dans les contrats. Alors, cette situation de prépublication est importante pour un projet comme Fake News, parce que l'éditeur, les éditions 2042, ont fait un tirage à 3000 exemplaires. Ça permet également de pouvoir faire ces tirages parce que la revue Topo, donc, qui est de ce groupe où il y a la revue dessinée, il y a Topo et maintenant il y a la revue 21, et donc c'est une façon de faciliter cette édition pour l'éditeur, et puis pour l'auteur c'est aussi un plus grand confort de création. Alors, fake news, bon, c'est un mot qu'on connaît, et après ce préambule, on a tous entendu ou eu affaire à des fake news. Alors, comment c'est traité par Léon Marais ? Question, le saviez-vous ? Le poississon est un saucisson de poisson. Le G20 est une convention internationale où les dirigeants de 20 pays les plus puissants de la planète se réunissent pour décider de l'avenir du monde dans une baignoire géante. Quand il fait beau, en Bretagne, les gens mettent de la crêpe solaire. En quelques exemples, vous avez déjà l'amplitude de ce que peut être les fake news imaginées par Léon Marais. Alors, il faut vraiment vous représenter comment cette édition est réalisée. Dans la revue, eh bien, il y a cette fourniture avec ce bandeau « fake news » et puis les cases peuvent représenter une fake news ou, au contraire, être une partie, une case d'un ensemble plus important, puisque à certains moments, Léon Marais va choisir de traiter sur une double page un thème, comme par exemple celui des abeilles, qui n'est pas piqué des hannetons, ou par exemple les nouvelles du cosmos. Et puis à d'autres moments, c'est donc un ensemble de fake qui va être présenté, juxtaposé dans des cases. On peut avoir deux images qui vont traiter, par exemple, d'une même fake news. Alors, la présentation est extrêmement rigoureuse, parce qu'il faut quand même pas... Faut quand même être un peu sérieux, quoi. Je sais pas. Ouais. Et donc, le principe, c'est un récitatif. Donc, un rectangle avec le titre de la fake news. Et puis, on a un autre récitatif qui est donc pas avec une police beaucoup plus petite et une image qui va illustrer la fake news. La mise en couleur est très contrastée. On a ce titre de la fake news sur un fond souvent rouge, avec dans la mise en image des couleurs qui sont vraiment très contrastées. Et ça donne sur l'ensemble une impression inhabituelle. Ce n'est pas du tout ce genre de bande dessinée que nous avons lire. Et ça fait partie pleinement du projet de Léon Marais, c'est d'associer cette fake news à une écriture dessinée qui est parfaitement maîtrisée et qui va coller au plus près de ce projet. Par exemple, l'image qui va illustrer la fake news va être une image qui va donc représenter ce qui est à lire dans l'info et qui va le faire avec, bien sûr, le décalage de représentation. Puisque c'est une fake news, il faut que le dessin soit fake aussi. Et Léon Marais va donner de l'amplitude aussi à la représentation. Il y a des doubles pages avec une autre approche, un léger décalage pour représenter graphiquement les différentes situations, avec un découpage par case qui va être beaucoup plus discret, puisque on aura plus ce cadre et ce contraste très appuyé sur quasiment l'ensemble de ces pages. Et donc, on a une amplitude à la fois des thématiques, de l'exagération. Ça peut être quelque chose qui peut paraître vraisemblable, et c'est souvent aussi purement invraisemblable. Alors, pourquoi faire un tel livre dans une revue pour ados ? Eh bien, mais c'est un peu le principe. Habituons-nous à lire, à en voir, à exercer notre esprit critique pour qu'on puisse tout de suite se positionner par rapport à une info. Dès que, par exemple, on vous cite des chiffres, et Léon Marais va le faire à plusieurs reprises, soyons tout de suite vigilants. Et est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est vraisemblable? Là, on est entraîné en direct et ça marche. Et ça marche. Alors, on peut imaginer dans la revue Topo, la livraison de ces deux pages de fake news avec, à chaque fois, une façon d'abonder et de surabonder dans cette situation aujourd'hui où l'information semble complètement détraquée, de retrouver un esprit critique, un rapport à l'information pour qu'on puisse déceler ce qu'est cette pratique de l'information. Alors, Léon Marais est un auteur qui a un compagnonnage avec les éditions 2024. Il y avait eu un de ses premiers livres, son très beau « Canne de fer » et « Lucifer ». Et puis, par exemple, son intervention dans Picsou Magazine, d'un récit micro-zouzou contre les maxi-zinzins que j'avais présenté, parce que c'était vraiment réjouissant. Il y a un autre titre qui paraît en même temps aux éditions Dupuis, qui s'appelle EU, et qui pourrait compléter la lecture de ce livre de Léon Marais. Alors en plus, c'est un auteur qui est guitariste, qui a eu un groupe de punk avec un petit succès, il s'appelait Les Betteraves. Mais c'est forcément une bonne personne, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce livre va bouleverser un peu votre approche parce que en fait, il n'y a pas une couverture comme c'est habituellement. La couverture, les gardes, c'est exactement présenté de la même façon que la bande dessinée. C'est aussi, c'est un fake éditorial. On peut faire les choses très différemment. Un livre à mettre dans toutes les bibliothèques de collège, de lycée, pour que les jeunes s'entraînent à fond pour développer leur esprit critique, Fake News, de Léon Marais. C'est publié par les éditions 2042. Alors, les 80 pages de ce livre sont au prix de 20 euros. Merci Antoine pour cette technique. On va se retrouver la semaine prochaine avec Annemasse et un titre étonnant, que j'aime beaucoup déjà, qui s'appelle Apocalypse sauvage. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.